travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
L'idéal français a toujours été que notre pays soit un pays totalitaire. Un seul Dieu, un seul roi, un seul parti, si j'ose dire. Grâce à l'édit de Nantes, la France pouvait être quelque chose de diversifié, de modulé, d'extraordinairement vivant et profond.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La formule fameuse prêtée à André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Cette formule, reprise un peu partout, y compris par le pape Jean-Paul II, cette formule est un faux, d'ailleurs démenti par celui-là même à qui on l'attribuait peu avant sa mort dans un entretien avec Pierre Desgroupes. Et cependant, comme il advient toujours lorsqu'un propos imaginaire est indéfiniment répété, son succès est révélateur d'une sensibilité collective. Et il conduit à prendre en compte, puisqu'il a fleuri surtout après la déconfiture du communisme européen et le déclin des interprétations exclusivement matérialistes de l'histoire de l'humanité, à prendre en compte une réalité capitale de notre temps, à savoir la puissante résurgence des guerres de religion, au Proche et au Moyen-Orient évidemment, mais aussi en Afrique, guère moins dramatiquement, notamment en République centrafricaine. Lorsque les angoisses contemporaines recherchent désespérément le moyen de surmonter ces conflits et toutes les barbaries qu'ils font surgir, il est un moment de l'histoire de France vers lequel la mémoire se porte spontanément pour trouver des motifs de se rasséréner. Un moment qui m'a paru de ce fait mériter aujourd'hui d'être analysé de près. Il s'agit de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes par lequel Henri IV, en 1598, a mis fin, au moins provisoirement, aux affrontements sanglants, à vrai dire épouvantables, qui avaient opposé durant 4 décennies catholiques et protestants, papistes et huguenots. L'œuvre profuse de mon invité, Philippe Joutard, professeur émérite à l'Université d'Aix-Provence, qui fut recteur à Besançon et à Toulouse, cette œuvre porte notamment sur l'histoire des Camisards et de la mémoire du protestantisme. Il prépare un ouvrage très attendu sur la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Il va nous aider ce matin, en direct des studios de France Culture, à regarder l'édit de Nantes à la lumière du présent. Désuétude ou modernité?
Jacques Chirac a officiellement lancé hier soir les cérémonies de commémoration du 400e anniversaire de l'édit de Nantes, qui va donner lieu cette année à plus d'un millier de manifestations dans toute la France. Le président de la République répondait à l'invitation du pasteur Jean Tartier, président du Conseil de la Fédération protestante, qui regroupe environ 1 million de Français. Ce fut une célébration républicaine et œcuménique. Dans la grande salle de l'UNESCO à Paris, plusieurs ministres ainsi que des représentants de toutes les communautés religieuses étaient présents. Hier soir, tous ceux qui ont pris la parole à l'UNESCO ont fait un lien entre le passé et le présent, soulignant l'art de la paix qu'avait déployé Henri IV pour faire coexister des différences. Le président de la République a retenu de l'édit de Nantes une leçon d'unité et un appel au pluralisme. Jacques Chirac au micro de Pascal Misrahi.
Cela signifie que rien n'est définitivement acquis et que l'on ne doit jamais baisser la garde. La paix civile est toujours fragile. Les valeurs et les principes qui permettent la vie ensemble doivent être sans cesse réaffirmés et défendus. Voilà, mesdames et messieurs, quels sont pour moi les grands enseignements de l'édit de Nantes. Unité, autorité de l'État, sens du dialogue et pragmatisme, courage, tolérance et vigilance. Ce sont tout simplement les principes fondateurs de notre République. Entre l'uniformité qui étouffe et le communautarisme qui sépare, le pluralisme est notre héritage le plus précieux.
Philippe Joutard, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation sur l'édit de Nantes, je vous ai proposé cet extrait d'un discours de Jacques Chirac, président de la République. C'était lors du 400e anniversaire de l'édit de Nantes et le journaliste était Simon Tivol. C'est Simon Tivol. Il m'a semblé qu'on trouvait là ramassé une sorte de noyau dur de la mémoire collective sur ce que peut être, l'édit de Nantes, qui est entré vraiment dans notre patrimoine, parfois d'ailleurs de façon simplifiée. Je pense à cet extrait de Sodome et Gomorre de Proust, où on voit un personnage qui dit que le summum de la distraction, c'est de prendre Lady de Nantes pour une aristocrate anglaise. Alors, ce texte de Chirac.
Écoutez, je crois qu'il dit un certain nombre de choses importantes. D'abord, la notion de fragilité. Et je crois qu'on le voit tous les jours. Plusieurs années après cette célébration. L'idée qu'on ne doit jamais laisser baisser la garde. L'idée de la difficulté du pragmatisme. Et puis, j'ai envie de revenir sur la dernière phrase. Entre l'uniformité qui étouffe et le communautarisme qui sépare, le pluralisme est notre héritage le plus précieux.
Oui,
le
oui.
grand problème, c'est comment on définit le communautarisme. Ce qui est communautarisme pour certains et pluralisme pour d'autres. C'est pour ça que c'est une affaire extraordinairement complexe, comme l'a été d'ailleurs la négociation qui a abouti à l'édit de Nantes. Je voudrais revenir d'ailleurs sur une de vos remarques à la fin. Désuétude ou modernité ? Eh bien, l'édit de Nantes, c'est à la fois désuétude et modernité, ce qui en fait la complexité.
Voilà un programme pour une émission.
Exactement. La désuétude, c'est tout ce qui est l'appareil militaire, ce qui fait des protestants un État dans l'État, hein, les places, tout ce qui les sépare du reste de la nation. Le caractère moderne, unique en Europe à ce moment-là, c'est d'avoir les catholiques et protestants dans un même État. Si, soyons clairs, il y a déjà un peu les provinces unies.
Avec toute l'ambiguïté de la notion de tolérance, mais nous allons y venir en détail. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une communauté protestante, d'après vous, Philippe Joutard ?
Je pense que les protestants ne voudraient pas en parler. En revanche, c'est certain qu'il y a un habitus protestant. Et puis, aujourd'hui, le protestant, comme toujours d'ailleurs, a été divers, mais encore plus divers qu'avant. Il y a les Huguenots, les héritiers de ceux qui ont résisté. Mais il y a aussi tous les luthériens d'Alsace, qui se sont maintenant unis d'ailleurs avec les Huguenots. Et puis, il y a toutes les communautés venues d'ailleurs.
Alors, maintenant, il faut que nous en venions sans barguigner, sans procrastiner, il faut que nous en venions à regarder, à considérer la manière dont la France s'est déchirée au cours des guerres de religion. On a dit parfois qu'il y en avait eu huit.
Huit, c'est ça.
Mais
attention,
en fait,
mais c'est pas continu, parce que c'est pas quand même 30 ans de violence sans interruption.
Ce sont des spasmes successifs. On date souvent de 1560, 1561, le début des guerres de religion, mais c'est un peu indu, puisque antérieurement, il y avait déjà eu des guerres, il y a déjà eu des manifestations d'intolérance, par exemple, du côté du pays de Vaud.
Il y a eu du côté du Luberon.
Je dis pays de Vaud, du côté des Vaudois.
Oui, des Vaudois.
Il ne faut pas confondre avec le pays de Vaud en Suisse.
Et il y a eu les Vaudois, qui n'étaient pas encore d'ailleurs alliés au protestantisme, et qui étaient une dissidence datant du Moyen-Âge, et qui vont être massacrés en 1545.
Eh bien, pour évoquer ces horreurs qui hélas trouve quelque écho au Proche-Orient, au Moyen-Orient d'aujourd'hui, cette chanson qui s'appelle « Voyez la grande offense », qui en fait a été écrite à la fin du XVIe siècle, mais qui évoque ces barbaries déjà. Elle est interprétée ici par Nicole Verville, avec à la guitare Victor Apicella.
Voyez la grande offense faite par les méchants au pays de Provence, contre les innocents, car ils ont mis à mort les chrétiens à grand tort. Entrez dans Cabrières pour la prendre et piller, femmes, filles et chambrières pour forcer et violer et meurtrir les enfants qui n'avaient pas 3 ans. Ces malheureux infâmes, plus que chiens enragés, les hommes et les femmes, tant les jeunes qu'âgés, ils les ont tous défaits, ces malheureux infaits. Par bois, monts et vallées, plusieurs chrétiens ont pris et mené aux galets sans avoir rien mépris. Aucun sont morts de faim, las par faute de pain. Encore davantage, sans ouïr leur raison, les méchants pleins de rage les mènent en prison. À Aix, à Cavaillon, aussi en Avignon. Hélas, hélas, mes frères, ne soyez ébahis en voyant les affaires qu'ainsi sommes haïs. Autant on fait à Christ ainsi qu'il est écrit.
Déjà, beaucoup d'horreur, outre les galères, les gens qui meurent de faim, les viols, etc. C'est déjà l'ambiance affreuse de cette division intime du pays qui va se dérouler entre 1560
exactement,
et la fin du siècle.
Exactement, Philippe mais Jouta. C'est aussi autre chose. C'est l'idée que les victimes ne sont pas victimes elles-mêmes. Elles savent réagir en chantant et en faisant des complaintes. Et je suis absolument persuadé que les minorités opprimées en Irak, eh bien, je suis absolument certain que l'une des manières de leur défense, c'est aussi cette parole qui, au départ, est souterraine et qui, peu à peu, va émerger.
C'est vrai dans toute l'histoire du protestantisme jusqu'à la Révolution française ?
Absolument, en particulier pendant la période du désert, alors où les protestants étaient persécutés, où les pasteurs étaient non seulement emprisonnés mais tués.
Après la révocation.
Il y a eu des complaintes.
En voilà une en tout cas qui est tout à fait topique. Alors entrons dans cette période, ces 4 décennies de déchirement intestin, Philippe Jouta. Est-ce que vous pouvez d'abord situer le nombre de protestants, leur sociologie, leur géographie, disons aux alentours de 1580?
Mais écoutez, on a toujours un peu exagéré leur nombre. En fait, ils sont pas extrêmement nombreux. Guère plus de 10% de la population française à la meilleure période.
Ça fait 3 millions
avant 1580.
Ça fait combien? 3 millions à peu près?
Moins de 3 millions, hein, un peu plus d'un million, hein, entre 1 million et 2 millions. Mais ils sont importants parce qu'ils occupent des positions stratégiques, à la fois sociologiques et géographiques. Sociologiques parce que plus vous vous élevez dans l'hierarchie sociale, plus vous trouvez de protestants. Ils sont très peu nombreux au niveau des paysans. Ils sont beaucoup plus nombreux déjà au niveau des villes, hein, dans les bourgeoisies négociantes, au niveau des artisans, les imprimeurs par exemple, les artisans de la laine qui suintent l'hérésie, comme le disait André Chanson.
Suintent l'hérésie.
C'est une très jolie expression. Tout à fait important au niveau de la noblesse et extrêmement important au niveau du sommet. Hein. Pratiquement, pas tout à fait à moitié, mais pas loin. Hein, avec des sympathies, par exemple, la sœur à l'origine, hein, la sœur de François Ier, avait des très fortes influences, hein, réformées.
Et puis, les débats devaient être intéressants à la table de famille.
Absolument. et puis aussi géographique, car ils sont concentrés dans quelques bastions. Le bastion le plus connu aujourd'hui, ce sont les Cévennes, la région actuelle du Gard, de la Lozère et une partie de l'Ardèche.
On retrouve les chers Camisards.
Voilà, exactement. Mais il y avait aussi tout le sud du Massif central en général. Il y avait la région atlantique très importante autour de la grande ville de La Rochelle. Il y avait un certain nombre de poches de négociants, si bien qu'ils étaient capables de faire des bastions, d'une part. Et puis alors, d'autre part, les catholiques eux-mêmes, finalement, par rapport à ce sujet, étaient divisés. Il y avait effectivement le monde populaire catholique violemment anti-protestant, avec quelques grands seigneurs, les familles des Guise. Mais autour du roi, c'était beaucoup plus nuancé. Bon nombre de gens, déjà, pensaient qu'on pouvait séparer, c'est très intéressant et très moderne, la croyance de l'adhésion à un État. Qu'on pouvait être fidèle au roi et en même temps en étant de religions différentes. D'où, je vais un peu vous surprendre, mais la politique royale a toujours été de chercher à trouver des points d'accord. L'édit de Nantes, de ce point de vue-là, n'est pas une nouveauté. Dès 1560-62, les premières trêves sont des trêves qui ressemble à l'édit de Nantes.
Il y a en particulier la fameuse paix de Saint-Germain.
Absolument.
Qui a donné d'ailleurs, on peut le signaler en passant, un romancier, Francis Valder, l'occasion d'un livre, la négociation, qui avait eu le prix Goncourt, je crois que c'était en 1958. Comment on négocie, c'est déjà une espèce de préhistoire de l'édit de Nantes.
Mais voilà, parce que si vous voulez, en fait, quand on pense à négociation, on croit que le roi ou que la royauté a uniquement négocié avec les protestants. Mais il fallait négocier de l'autre côté, avec les catholiques, si l'on peut dire extrêmes, avec les grandes familles, la grande famille catholique des Guise. Et d'ailleurs, on le voit bien au moment de la négociation de... qui précède l'édit de Nantes, dans les mois qui précèdent sa signature avril-mai, eh bien, la négociation est beaucoup plus importante avec les derniers ligueurs qu'avec les protestants, si je peux dire.
Il faut rappeler ce qu'était la Ligue, mais c'était peut-être le seul moment de théocratie que notre France a connu.
Tout à fait.
Où se mêlaient tout à fait le gouvernement de l'Église et le gouvernement de l'État.
Oui, et le gouvernement, et avec d'ailleurs des curés. C'était à la fois une théocratie, mais une théographie, entre guillemets, démocratique, car ceux qui dirigeaient en quelque sorte, c'était l'ensemble des curés, à Paris en particulier.
Quoi qu'il en soit, la mémoire retient aussi évidemment les moments particulièrement spasmodiques de ces affrontements avec la Saint-Barthélemy.
Qui d'ailleurs n'a pas été seulement parisienne, a eu des Saint-Barthélemy de province.
Et avant de quitter ces périodes dramatiques, dont on retrouve hélas... les échos aujourd'hui avec ces épouvantables massacres de chiites, notamment par les troupes de ce fameux État islamique qui a surgi récemment. Pour restituer cette ambiance, je vais vous donner un extrait du grand poète protestant qui était Agrippa d'Aubigné, dans les tragiques, ce sont des poèmes qui ont été publiés plus tard, mais qui datent des guerres civiles, des guerres de religion. C'est un extrait qui est lu ici par Annie Ducos, sociétaire de la Comédie française, le 1er août 1959.
La France, dont encore, est pareille au vaisseau qui, outragé des vents, des rochers et de l'eau, loge deux ennemis. L'un tient avec sa troupe la proue, et l'autre a pris sa retraite à la poupe. De canons et de feu, chacun met en éclat la moitié qui s'oppose et font verser en bas l'un et l'autre enivrés des eaux et de l'envie ensemble le navire et la charge et la vie. Le village se garde et nos propres maisons nous sont le plus souvent garnison et prison. L'honorable bourgeois, l'exemple de sa ville, souffre devant ses yeux violées femmes et filles et tombées sans merci dans l'insolente main qui s'étendait naguère à mendier son pain. Le sage justicier est traîné au supplice. Le malfaiteur lui fait son procès. L'injustice, c'est principe de droit. Comme au monde à l'envers, le vieux père est fouetté par son enfant pervers. Celui qui, en la paix, cachait son brigandage de peur d'être puni, étale son pillage. Au son de la trompette, au plus fort des marchés, son meurtre et son butin sont à l'encan prêchés. si qu'au lieu de la roue, au lieu de la sentence, la peine du forfait se change en récompense.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
En l'occurrence, Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné qui restitue un monde de violence et de sanglante barbare.
Il est en même temps un politique, hein, car c'est un des conseillers d'Henri IV quand il n'est pas encore Henri IV, hein, quand il est roi de Navarre, de Béarnais.
Et protestant.
Protestant, bien entendu, mais, disons, héritier du trône par le principe bien connu de la succession uniquement par les hommes.
Et Agrippa d'Aubigné fait de vifs reproches à Henri IV lorsque celui-ci, au cours des années 1590, choisit de... Il n'a jamais dit, paraît-il, Paris vaut bien une messe, mais c'est bien l'esprit.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'est parfaitement rendu compte, c'est un réaliste, un pragmatique,
Henri IV.
Comme l'a dit Jacques Chirac. C'est un pragmatique et il se rend parfaitement compte que l'ensemble du pays est majoritairement catholique et que, à la fois, s'il veut garder le pouvoir et aboutir à l'apaisement, il faut qu'il fasse ce geste, hein, se convertir, d'être sacré, et même de guérir pour un ancien protestant, hein, de guérir miraculeusement par le toucher, les fameuses écrouelles.
Oui, ça, je pense que Luther et Calvin n'auraient guère prisé ce
absolument,
genre de foi.
Absolument, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, à partir de là, donc, c'est en même temps un redoutable combattant, hein, qui a été exalté dans la mémoire collective, hein, et qui, justement, petit à petit, rallie autour de lui, déjà, il a autour de lui, les légitimistes, en particulier, généralement, des légistes, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ceux qui estiment qu'on peut déjà séparer la foi de l'adhésion à la couronne.
Alors on arrive à l'édit de Nantes, dont il faut rappeler la date, avril-mai 1598.
Oui, vous avez raison de dire avril-mai, parce que le phénomène curieux, c'est que les dates, on n'est même pas sûr. Dans un premier temps, on croyait que c'était le 13 avril. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Et pourquoi on vous parlait d'avril-mai? Parce qu'il y a en fait plusieurs textes. Et vous voyez, cette variété de textes montre la complexité, le bricolage, si l'on peut dire. Il y a d'abord l'édit lui-même, probablement le 30 avril. Ensuite, il y a... alors, c'est l'édit qui, officiellement, fait loi et qui passe devant le Parlement. Mais à côté de ça, il y a deux autres séries de textes.
Les Parlements.
Les Parlements, oui. Vous avez tout à fait raison de parler au pluriel. Hein. Moi, je pensais au Parlement de Paris, mais tous les autres parlements doivent en effet entériner cette loi. Et par exemple, le Parlement de Normandie, le dernier, l'a entériné en 1609.
Donc plusieurs textes, dites-vous?
Alors, plusieurs textes, je reviens à cela. L'édit lui-même, mais il y a les brevets. C'est ceux qui créent les protestantismes étant dans l'État, qui accordent par exemple de l'argent pour certaines troupes, qui accordent les places militaires, hein, et qui n'ont pas besoin de passer devant le Parlement. Mais les brevets sont renouvelables. Hein, ce n'est pas de façon permanente. Et puis, il y a aussi les articles spéciaux ou secrets.
Ah bon,
et bon secret. Nombre de choses que le roi ne tient pas tellement à mettre trop en avant sont dans les articles spéciaux ou secrets.
En tout cas, il faut peut-être faire entendre ce qu'a été cet édit de Nantes dans la partie ouverte.
Voilà.
Juste un extrait du préambule pour se demander ce qui là est moderne ou ce qui peut être très daté, enraciné dans son temps. Écoutez, maintenant qu'il plaît à Dieu de commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, donc fin des guerres civiles, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut consacrer la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets. Ça, c'est l'aspect politique.
Oui, oui.
Tous nos sujets. Unité dans la diversité. Et s'il ne lui a plu, à Dieu, de permettre que ce soit dès maintenant, en une même forme de religion, que ce soit au moins d'une même intention, et avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entre eux.
Ça, c'est, je crois, très moderne, hein, cette formule.
Pas de trouble et de tumulte entre eux. Et que nous, et ce royaume, puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de trait chrétien et par ce même moyen ôter la cause du mal et trouble qui peut advenir sur le fait de la religion. Il me semble que dans ce texte, on trouve tout à fait l'ambivalence.
Oui. Mais par exemple, une seule chose que a très bien signalé Marianne Carbonnier-Burkhard, c'est très chrétien. C'est la formule, au contraire, employée dans les édits de condamnation, les édits qui refusent, si vous voulez, la pluralité.
Il est très chrétien. Vous voyez
l'habileté. Il utilise le terme d'un édit de condamnation pour au contraire un édit d'ouverture et de tolérance. Je crois que c'est un très bon exemple.
Vous parlez de bricolage. Est-ce que ce n'est pas le fait de tous ceux qui, à toutes les époques, ont eu le courage moral et physique formidable de s'interposer entre des passions religieuses
opposées. Vous avez complètement
raison. Je pense à Rabin, je pense à Sadat, pour les périodes récentes, par exemple.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et il y a d'ailleurs une autre chose à signaler dans ce texte qui est aussi pragmatique et qui a des résonances à l'époque contemporaine, c'est l'article 2 sur l'oubli.
Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé pour quelque cause et prétexte que ce soit. Ça, ce n'est pas nouveau, puisque déjà en 403 avant Jésus-Christ, lorsque les aristocrates, les 30, avaient laissé la place à la démocratie, on avait fait un décret punissant de mort ceux qui rappelleraient les troubles passés, mais mnésie cacaïne. Donc c'est à la fois l'amnésie et l'amnistie intimement mêlée.
Absolument.
Mêlée, qu'on trouve presque toujours aujourd'hui encore. Quand
écoutez, par exemple, alors, c'est pas l'exemple. On pourrait souhaiter que ça arrive, justement, en particulier dans les rapports chiites-sunnites. Mais rappelez-vous, en Espagne, juste au sortir la période de transition démocratique, est fondée sur cette notion d'amnistie oubli.
Pas de procès, pas de punition.
Pas de procès, rien. Alors,
et ça a été accepté par tous, y compris par le Parti communiste.
Et oui, au début. Alors évidemment, après, la génération d'après, c'est plus difficile.
Ça ressurgit.
Ça ressurgit. Ça montre, si vous voulez, que dans notre époque, parfois d'hyper-transparence, et parfois, il faut accepter que la mémoire, qui est elle-même fondée sur le mythe, cette mémoire, eh bien, face à la sélection, elle ne rappelle pas tout. Et alors, c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, qu'il y ait cet article sur l'oubli, que par ailleurs, ce que fait, et là, il est très habile, Henri IV, ce que fait l'édit de Nantes, ce n'est que rappeler des choses qui ont été acceptées dans les divers autres traités, y compris dans le traité de Saint-Germain.
Donc c'est moins neuf qu'on ne le dit parfois.
Mais oui, ça n'est pas neuf.
Mais ça cristallise quelque chose, ce qui explique qu'on se le rappelle de façon aussi frappante aujourd'hui encore.
Si vous voulez, ce qui fait, j'ai envie de dire, le caractère de durée, c'est son bricolage. Et derrière, on revient à cette notion de pragmatisme. Et c'est bien évident que par rapport à des, disons, états d'esprit manichéens, c'est évidemment complètement scandaleux. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que aussi bien certains protestants ont mal réagi, mais ils sont finalement ralliés, mais aussi que du côté catholique. Et qu'un certain nombre de gens ne l'ont jamais vraiment accepté.
S'il y a quelque chose d'éternel, au moment des affrontements intestins des nations, c'est bien ça.
Tout à fait.
Alors ça explique aussi pourquoi ce bricolage, cette habileté, pourquoi le mythe de Henri IV, notamment lorsqu'il a été en fait victime, comme l'avait été Henri III, de cette position qui a été la sienne de réconciliation, il a payé de sa
tout
vie,
à fait,
Ravaillac 1610, c'est ça. Comment son image a été progressivement dotée d'une sorte de...
De son temps. Déjà, oui. C'est un homme qui a un remarquable sens de la communication.
Anachronique, le mot est anachronique, la chose ne l'est pas.
Non, absolument. C'est-à-dire que dès le départ, il se met en scène. Dès le départ, il y a des images, et des images fortes. Ralliez-vous à mon panache blanc.
Nous avons vaincu, brave Crillon, étais pas. Pends-toi, brave Crillon, nous avons vaincu. Tu n'y étais pas.
Voilà, c'est formidable, si vous voulez, de voir à quel point, de ce point de vue-là, ce n'est pas notre sujet, mais Henri IV est extrêmement moderne. Dans cette manière dont il se présente comme un roi à la fois fort, mais un roi qui est proche du peuple.
Non sans cette pointe d'humour qui parfois aboutit à dire aux passions opposées que peut-être elle pourrait se concilier mieux qu'elle ne le croit elle-même. Sur le mythe, écoutez cette chanson qui est ultérieure, qui est la version originale est de Charles Collet en 1660. Vive le roi Henri IV. Elle est interprétée ici par les quatre barbus. C'est un extrait du film Vive Henri IV, vive l'amour de Claude Autant-Lara, un film de 1961. Les composantes de cette légende, fruit de sa communication, elles sont toutes là.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Au diable guerre, rancuneux et parti. Au diable guerre, rancuneux et parti. Comme nos pères, chantons en vrais amis, au choc des vers, les roses et les lits. Vive la France, vive le roi Henri. Vive la France, vive le roi Henri. Car un son danse en disant comme Paris, vive la France, vive le roi Henri. Vive le roi Henri.
Le triple talent de boire, se battre et d'être un vert galant. Les composantes sont là,
oui.
N'est-ce pas Philippe Joutard ?
Voilà. Et là encore, si vous voulez, par rapport, j'allais dire, des deux côtés, vous voyez, à la fois le vert galant et se battre, enfin tout ceci, et tout ceci évidemment plaît beaucoup.
Alors très concrètement, il faut que nous voyions quel est le contenu, quelles sont les conséquences de l'édit de Nantes dont nous parlons ce matin à la lumière de notre actualité, de nos angoisses contemporaines. Il y a d'abord la liberté du culte,
alors,
l'exercice du culte.
Alors attention, en sachant bien qu'elle est limitée quand même, parce que le premier, après juste l'oubli, les premiers articles qui suivent sont réservés au rétablissement du culte catholique partout. Et le culte protestant n'est accepté que, d'une part, dans les endroits où il y a des nobles protestants, deuxième point, dans les endroits où il y a déjà du culte attesté à une certaine date, et ce n'est qu'en troisième lieu qu'il y a droit à deux cultes par bailliage. Si vous voulez, le bailliage, c'était une petite division territoriale. C'est-à-dire que c'est une liberté de culte, mais une liberté de culte contrôlée, parce qu'on ne peut pas aller plus loin.
Donc dissymétrie, en fait, puisque le catholicisme est partout. Le catholicisme est partout, le protestantisme est cantonné dans des endroits où il s'est enraciné historiquement, c'est
voilà,
bien ça.
Et d'autre part, il ne peut plus progresser. La grosse faiblesse du côté des protestants, et certains ont protesté justement contre cet édit, c'est que justement il n'y a aucune possibilité de pouvoir continuer à convertir d'autres.
Enfin, exercice du culte, liberté de conscience quand même, c'est le fond.
Liberté
c'est
de conscience,
des choses.
Absolument. Et alors, ensuite, très moderne, égalité
juridique,
quelle que soit la religion.
Accès à toutes les places.
Accès absolument à toutes les places.
Plus les places fortes, alors c'est autre...
Oui, non, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est l'aspect, je dirais, la contradiction. C'est que dans un pays où la noblesse, la féodalité a de moins en moins de place et où s'esquisse une monarchie étatique moderne absolue, eh bien, vouloir réserver aux protestants des places tenues par des nobles, ça, c'est quelque chose du passé, et c'est ce qui ne tiendra pas, d'ailleurs.
Si on regarde le fond de tableau, c'est-à-dire la notion de tolérance telle qu'elle s'incarne dans l'édit de Nantes, elle a aussi des côtés qui nous apparaissent un peu déçus, parce qu'en fait, la tolérance, ce n'est pas l'idée que chacun peut penser ce qu'il veut, c'est l'idée que l'on souffre, on accepte un mal qu'on ne peut empêcher, non sans un peu de condescendance. On accepte
c'est un moindre mal.
Souffrir les erreurs des contradicteurs par désir de préserver la paix civile. Mais il y a aussi intimement une notion de caractère provisoire de
celui-là,
puisqu'on entend que peut-être on arrivera un jour à ce que ces erreurs étant effacées, étant oblitérées, on retrouve une paix civile qui soit fondée en fait sur un ensemble religieux. Vous m'avez compris.
Absolument, et d'ailleurs, d'une certaine façon, dans le préambule de l'édit qui révoque l'édit de Nantes, il y a bien l'idée que c'était une solution provisoire. Il y a une double interprétation qui peut être faite de l'édit de Nantes. Une interprétation qui est la nôtre, positive, hein, la reconnaissance du pluralisme et une solution purement provisoire qui ne doit durer que le temps où il y a effectivement deux communautés. Et la communauté dominante, les catholiques, vont s'efforcer le plus possible de regagner des positions.
Quoi qu'il en soit, la France vit dans un équilibre relatif dans ces moments-là. Il y a même des endroits où intéressant à observer aujourd'hui, quand on pense au Proche-Orient, par exemple, au pouvoir irakien, il y a des cas où certains collèges, par exemple, je regarde le cas de Pont-de-Vel dans la Bresse, en 1627, le premier régent du collège, il est décidé qu'il sera catholique et que le second sera protestant. C'est à un niveau minuscule, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bagdad. Le président de la République est kurde, etc.
Je crois que là encore, la France du XVIIe siècle, la France de Lédinov, offre de multiples exemples. Hein. Et d'ailleurs, au niveau, nous dirions aujourd'hui, anachronisme, la société civile, ça se passe de mieux en mieux. Et un des signes qui est abhorré par les autorités des deux religions, les mariages.
Ah, les mariages. Bigarrés. Oui, c'est toujours un signe, c'est toujours un marqueur, comme on dit.
C'est formidable. Hein. À Nîmes, par exemple, pendant les années 1630 et 1640, je crois qu'il y a un quart des mariages mixtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que même en pleine Cévennes, et Robert Sauzet l'a bien montré dans la Cévennes catholique, eh bien, il y a une série de mariages où même le notaire note de façon précise comment ça va se faire par la suite. D'abord, chacun va pratiquer son culte, et ensuite, les enfants, par exemple, si la mère est protestante, les filles seront protestantes, et le père étant catholique, les garçons seront catholiques. C'est-à-dire que pratiquement, alors que aussi bien l'évêque que le consistoire, évidemment, les deux autorités sont violemment contre, les gens n'en tiennent pas, s'en moquent un peu, si l'on peut dire, voyez.
On a des récits où on voit l'épouvante d'un certain nombre de représentants de l'Église catholique arrivant dans des villages du Midi et voyant le curé en train de jouer aux boules avec le notaire protestant.
C'est quelqu'un qui est d'ailleurs un archevêque assez tolérant, un Camus, hein, qui voit ce spectacle, hein, et quand même, ça le choque.
Tout ça donne pendant un certain temps une vie relativement paisible, notamment aux protestants, pour restituer cette ambiance. Je vais vous proposer une archive qui est un extrait d'une causerie de Max-Olivier Lacan. C'est un romancier protestant qui avait eu demandé le prix Goncourt, sauf erreur, avec les feux de la colère.
Le prix Renaudot.
Rien n'échappe à votre précision, Philippe Jouta.
Il n'a pas beaucoup de mérite, hein, parce que c'est quand même un sujet que je connais assez bien.
Non, mais je ne minimise pas votre mérite. Max-Olivier Lacan, prix Renaudot, avec les feux de la colère. Vous ne me direz pas l'année, on cherchera.
Ça doit être 69, je crois, non?
C'est pas mal, ça doit être vrai. Il évoque la manière dont les Huguenots vivaient après l'édit de Nantes, avant les persécutions. Max-Olivier Lacan avait une maison à Menoblet, près de Saint-Hippolyte-du-Fort. Là, on est en plein pays camisard. Écoutons-le.
Avant la persécution, la vie de tous les jours était réglée sur la semaine. Le culte du dimanche, depuis les environs de 1560, où les Cévennes déjà réformées par les moines augustins, disciples de Luther, furent organisées en paroisse par les pasteurs de Genève, dont le maître était Jean Calvin, le culte du dimanche donc était le point culminant de la vie sociale. C'était le jour pas comme les autres. La cloche sonnait, la cloche dont le rôle était aussi important que le symbole. À Monoblet, pas très loin d'ici, 20 km peut-être, où j'ai ma tradition, la cloche existe toujours. La cloche protestante, arrachée aux ruines du vieux temple, détruit en 1684, et elle sonne encore les jours de culte sur la tour de la mairie. Mon père a relevé il y a bien longtemps les inscriptions qui l'identifient. Cloche pour l'église réformée de Monoblet 1650, d'un côté de la jupe, et de l'autre, heureux ceux qui oient la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 11. Je ne suis jamais monté sur la tour pour vérifier, mais je pense que mon père ne s'est pas trompé. Donc la cloche sonnait et la communauté se rassemblait, chantaient ensemble les psaumes entonnés par le chantre, qui faisait aussi fonction généralement de maître d'école et de secrétaire du pasteur, lequel on appelait ministre de la parole de Dieu, car la loi n'autorisait que les prêtres catholiques à être qualifiés de pasteurs. Les sermons étaient longs, très très longs, des heures, et les jeunes mères dont on allait baptiser les enfants à la fin du culte nourrissaient leurs petits entre deux exhortations, entre deux prières interminables, dites le plus souvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patois de Canaan, c'est-à-dire dans un mélange d'incitation à la morale, d'encouragement à la vie éternelle, entrelardé de longues citations bibliques pleines de chameaux dans le désert, de palmes bruissantes et de miracles merveilleux.
France Culture, Concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Alors Philippe Joutard, une sorte d'harmonie, mais nous savons aujourd'hui qu'elle a été extrêmement précaire.
Oui et non, parce que prenez l'exemple de la cloche. Daniel Travier, un grand connaisseur de la région à Saint-Jean-du-Gard, faisait remarquer que la cloche des protestants attirait les catholiques. Alors, et que d'autre part, même une fois après le siège de La Rochelle, l'édit de grâce de Nîmes de 1629 enlève évidemment tous les pouvoirs militaires des protestants, mais leur conserve complètement l'édit de Nantes.
Ça, c'est le sens du siège de La Rochelle par Richelieu. Rappelez ce dont il s'agit.
Eh bien, c'est-à-dire que, alors là, effectivement, l'idée de Richelieu, c'est que vraiment éliminer tout ce qui fait sécession, qui donne l'impression d'État dans l'État.
Une place forte, donc c'était un des éléments de l'État, de l'édit de Nantes, et celui-là va être progressivement...
Celui-là va disparaître. Et celui-là, c'est ce que j'appelais la désuétude, ce qu'on disait, la désuétude. Et après ça, d'ailleurs, une certaine période d'or s'installe. Il faut savoir que au temps de Mazarin, les protestants sont extrêmement légitimistes et Mazarin aurait dit que le petit troupeau va peut-être brouter dans des champs mauvais, mais qu'il est fidèle.
Il est fidèle et on attend qu'il revienne dans nos champs à nous.
Voilà, exactement. Mais par la non-violence, alors, ce qui vient, tout change. Et c'est ça. C'est là où on voit le poids, la fragilité dont parlait en entrée de jeu Jacques Chirac. Tout change avec l'arrivée au pouvoir de Louis XIV.
Alors cette manière dont l'étau s'est resserré autour des protestants français, c'est cette évolution qu'il s'agit maintenant d'évoquer, Philippe Joutard, parce que cela aussi nous intéresse par rapport à la fragilité des trêves éventuelles que l'on peut espérer susciter dans les pays divisés par des querelles religieuses sans pitié actuellement.
Alors, il y a deux périodes qui sont maintenant bien repérées. Il y a ce qu'on appelle, l'édit de Nantes pris à la rigueur, c'est-à-dire où on s'efforce d'aller chercher la plus petite raison de dire qu'on a contrevenu à l'édit de Nantes et par conséquent, par exemple, à faire détruire les temples. C'est donc tout un aspect de travail juridique, travail de sape. Et puis, il y a évidemment, à partir de la fin de la décennie 70, 79, 80, le basculement, c'est-à-dire où on se dirige très clairement vers la suppression de cet édit.
Donc ça veut dire qu'on empêche les signes extérieurs de la pratique du protestantisme, on limite les prêches, on limite aussi le nombre des ministres du
voilà,
culte,
et puis
il y a l'éducation aussi.
Voilà, et puis par exemple, un catholique, par curiosité, rentre dans un temple, immédiatement c'est la preuve que le pasteur a voulu convertir le catholique, et il fait du prosélytisme, il n'a pas le droit, on détruit le temple.
Oui, donc en fait, c'est un corset qui se resserre avec une grande violence progressivement. L'éducation aussi, on souhaite arracher les enfants à l'hérésie protestante.
Alors que dans bien des cas, société civile, il y avait en quelque sorte, dans certains collèges, à la fois les deux communautés.
Les protestants deviennent des sujets de seconde catégorie.
Exactement. Et alors, si vous voulez, les choses vont s'accélérer par l'initiative local, là encore un peu de façon anachronique, c'est-à-dire que l'intendant Mariac en Poitou a l'idée d'utiliser ce qu'on utilisait contre les mauvais payeurs, ceux qui ne payaient pas leur impôt, de mettre des gens de guerre qui ont le droit de tout faire sauf de tuer.
Hein. Ce sont les fameuses, dragonnades.
Mais qui étaient utilisées uniquement pour quelques personnes et dans des cas précis. Dans les révoltes populaires, fiscales, c'était cela. Et alors, évidemment, comme ça réussit très très bien, hein, certes, on va rappeler Marillac, mais ces conversions obtenues par la violence, on n'en revient pas dessus. On fait comme si la violence n'existait pas. Et d'une certaine façon, l'initiative locale, il y a une espèce d'aller-retour entre l'initiative, entre le pouvoir central et les initiatives locales.
La violence des soudards laissée à eux-mêmes comme une arme d'influence, de conversion, c'est aussi, hélas, très actuel.
Exactement. Et alors, bien entendu, après, on peut dire « Ah, mais c'était pas moi hein !» C'est une initiative que nous n'approuvons pas. Mais en réalité, on ne la désavoue pas vraiment. Et alors, ça crée un sentiment de peur. Et ce sentiment de peur va être extrêmement accentué en 1685, avec, par exemple, dans le Béarn, précisément, l'intendant Foucault. Ça va être ensuite... ce principe de dragonnade va être étendu à l'ensemble du Sud, si bien que le bastion principal, le Languedoc oriental et les Cévennes, a tellement entendu par la rumeur la violence, le récit des violences, que même à partir de moment où on voit les troupes arriver, les gens se précipitent pour abjurer et signer leur abjuration.
C'est ainsi qu'on en arrive à l'abrogation de l'édit de
Nantes. Et oui, parce qu'on dit pourquoi il n'y a pas besoin de continuer à l'édit de Nantes, puisqu'il n'y a plus de protestants.
On a atteint le but, c'est-à-dire le moment où seraient dépassées les erreurs des uns et des autres. C'est très clair dans l'édit de Nantes, 17 octobre 1685. Puisque tout ce qui a été ordonné en faveur de la dite RPR, la religion prétendue réformée, on ne dit plus hérésie, la religion, mais prétendue réformée, demeure inutile. Nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles,
absolument,
de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causé dans notre royaume, que de révoquer entièrement le dit édit de Nantes, la messe édite, si je puis dire.
Si on peut dire, voilà. Hein. Même si c'est une décision politique, hein, beaucoup plus que religieuse. Je rappelle que à ce moment-là, le roi est pratiquement brouillé avec le pape, et c'est pour montrer d'ailleurs au pape qu'il fait mieux. Hein. Et d'ailleurs, le pape finalement se rend parfaitement compte que c'est une manœuvre qui s'adresse un peu aussi à lui.
Donc on a exagéré le rôle, par exemple, de Madame de Maintenon, trouvait être la petite fille, paradoxalement, d'Agrippa d'Aubigné.
Tout à fait, absolument. Absolument, et aussi du
des jésuites.
Des jésuites, du Père Lachaise. Non, il y a un clan en effet qui a joué un rôle, mais beaucoup par opportunisme, c'est le clan Le Tellier. Même Colbert, qu'on présente comme un grand tolérant.
Mais il est mort.
Qui est mort d'ailleurs à cette époque. Bah, le clan Colbert accepte, puisque Foucault, l'un des dragonneurs en chef, appartient au clan Colbert, et celui qui va être le premier à protester en faveur des protestants vaubans appartient au clan Le Tellier. Vous voyez, ces choses sont assez compliquées. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une décision politique. Et avec un caractère unique et moderne, j'ai envie de dire, alors là, très actuel, c'est le refus de l'émigration. Parce que au XVIe siècle, le prince change de religion, eh bien, adopte une religion catholique ou protestante, les sujets doivent suivre, mais ils ont le droit d'émigrer. Tandis que là, on interdit l'émigration.
Et pourtant, les émigrations ont lieu, et cela aussi, ces grandes déportations de peuples sonnent terriblement contemporaines, puisque le royaume se vide d'une partie des protestants.
Et qualitativement, des protestants qui comptent.
Le refuge, ça s'est appelé le...
C'est appelé le refuge, avec en particulier des choses très très intéressantes. D'une certaine façon, la Prusse doit remercier beaucoup Louis XIV, car elle a reçu, si vous voulez, une main d'œuvre de très grande qualité,
Et on a retrouvé en 1940 d'ailleurs des généraux en face qui portaient des noms français. Je ne suis pas sûr que les terribles déportations de peuples aujourd'hui au Proche-Orient puissent aboutir à des résultats du même genre au profit d'un autre pays. Je ne sais pas. Mais les chrétiens d'Orient, les yézidis...
Je fais remarquer que les chrétiens d'Orient qui souvent émigrent, qui sont souvent des gens extrêmement cultivés et qui, comme toute minorité, toutes les minorités, en général, pour se défendre, ont atteint un niveau très souvent culturel supérieur. Eh bien, quand elles émigrent aux États-Unis ou en Europe, eh bien, elles apportent tout leur savoir.
Ça a été vrai des Juifs d'Irak, par exemple, qui ont émigré depuis très longtemps. Je ne sais pas si ce sera la même chose pour ces Yézidis dont on a appris l'importance récemment, qui observent une des religions les plus anciennes du monde et qui sont également déportés, arrachés à leur pays traditionnel, à leur monde, à leur village. C'est un peu un équivalent de ce départ des protestants, non, Philippe Joutard?
Oui, la seule chose, c'est que les Yézidis, soyons clairs, peu de gens les connaissaient, malheureusement. Et ils n'appartenaient pas à une sorte de groupe structuré. La grande force des protestants français, ce que n'a pas compris d'ailleurs, y compris Louis XIV, c'est que, d'une certaine façon, ils vont être après soutenus par les puissances protestantes. Et il y a encore une autre conséquence de cette révocation. C'est la révolution anglaise de 88. Car si Jacques II a été renversé, un souverain catholique qui venait d'avoir un enfant catholique, c'est précisément parce que les partisans de Guillaume d'Orange ont dit « Regardez, si vous avez un souverain catholique à terme, non seulement lui, mais son successeur, qu'est-ce qui va arriver ?»
Donc, beau résultat de ce crime qu'a été la révocation de l'édit de Nantes, et qu'il va falloir rappeler tout de même l'année prochaine quand on évoquera l'anniversaire de la mort de Louis XIV.
Absolument.
L'Angleterre devient protestante.
Absolument.
Nous n'avons plus beaucoup
pas
de temps.
Elle devient un des fers de lance des coalitions.
Alors, l'histoire du XVIIIe siècle, que nous ne pouvons que parcourir au galop, Philippe Joutard, c'est celle du desserrement progressif de l'étau sur les protestants, mais deux pas en avant, un pas en arrière.
Oui, mais attention, moi je crois qu'il faut réfléchir à cela.
Mais j'y suis tout près, réfléchissons.
Pourquoi on n'a pas révoqué la révocation? Pourquoi ce XVIIIe siècle tolérant, pourquoi ce XVIIIe siècle tolérant, eh bien, ne revient pas en arrière? Et figurez-vous que non seulement il ne revient pas en arrière, il ne révoque pas la révocation, mais même en 1724, il y a un texte encore plus violent que l'édit de Fontainebleau, qui est l'édit de révocation. C'est extraordinaire. On a un peu l'impression que c'est l'idée que l'État ne doit pas se déjuger. Que ce qu'a fait Louis XIV, eh bien, il faut le maintenir coûte que coûte, même si on ne l'applique pas.
D'où la brutalité de la répression pendant encore très longtemps, des camisards, etc.
Il y a encore un pasteur exécuté au début de la décennie 1760. Il y a encore des gens envoyés aux galères en 1765.
Quoi qu'il en soit, on progresse évidemment vers l'édit de tolérance. Écoutons Voltaire, si vous voulez bien, puisque c'est un des philosophes qui a incarné, avec toutes les ambivalences d'ailleurs de son message, mais qui a incarné, à faire Calas et autres, la défense et l'illustration.
Tout à fait, avec cependant... une remarque, c'est que cet édit de tolérance, c'est pas vraiment de la tolérance, car on n'accorde pas vraiment la liberté de culte en 1787.
Il faudra attendre de fait la révolution. Voltaire.
Que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas. Ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix. Et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant.
On aura peut-être reconnu la voix de Charles Boyer. En 1944, on est dans l'atmosphère un peu grandiloquente de l'après-libération. Philippe Joutard, depuis Siam jusqu'à la Californie...
C'est déjà l'idée que ces problèmes se posent dans l'ensemble du monde, une sorte de premier sentiment de mondialisation. Et puis d'autre part, je suis très attentif à ces histoires de vêtements, vous voyez, ces querelles autour, avec ce qu'il y a de relatif. Prenez le voile, devenu en quelque sorte un symbole musulman. Mais réfléchissez, il y a quelques années, le voile, c'est au contraire un symbole catholique. Les religieux avec le voile. En Bretagne, les femmes qui portaient le voile. Vous voyez, tout reste relatif. Et parfois, des gens qui vous confondent tout, faute d'avoir une connaissance. Je pense que la première chose de la tolérance, c'est d'abord de savoir, de comprendre, ce qui ne veut pas dire partager, mais ce que fait l'autre. Et la tolérance, c'est connaître en profondeur pour éviter les simplifications.
Actualité
aussi française d'ailleurs, pas simplement à l'Irak.
Dans un livre intéressant, Pierre Jox, qui parle de l'édit de Nantes, une histoire pour aujourd'hui, il a été ministre de l'Intérieur, donc des cultes, cite cet extrait d'un propos de François Mitterrand à l'occasion de l'anniversaire de la révocation de l'édit de Nantes. Vieille histoire, les dragonnades, les galères, les camisards. Non, histoire d'aujourd'hui, à travers le monde entier. Vertige de l'exclusion, rejet des minorités, tentation de pousser vers l'exil et vers quel refuge une partie de ceux qui vivent chez nous ou avec nous. Cela existe, cela chemine dans certains esprits. Concordance des temps, non, Philippe Joutard?
Exactement.
Je citerai deux de vos ouvrages, on pourrait en citer d'autres. La mémoire des camisards, votre grand livre sur la manière dont cette réalité, cette oppression a pu cheminer sur place et dans le milieu protestant. Et puis sur les camisards eux-mêmes, de façon plus ramassée, votre ouvrage qui porte ce titre, Les camisards, Folio 1976. Qui a d'ailleurs été réédité. J'évoquais Pierre Jox, l'édit de Nantes, une histoire pour aujourd'hui. Je citerai également Marianne Carbonnier-Burcard et Patrick Cabanel avec une utile histoire des protestants en France, 16e, 20e siècle, paru chez Desclée de Brouwer en 1998. Et puis les ouvrages très précieux de Bernard Cotteret, Jeanne Garrison, Thierry Van Geffelen, qui seront naturellement donnés avec des détails sur notre site où vous les retrouverez aisément. Vous trouverez également sur ce site, le site de Concordance des temps, la référence des documents sonores que nous vous avons proposés. Vous pourrez écouter, réécouter et bien sûr télécharger cette émission pour très longtemps, puisqu'il est bien à craindre, Philippe Joutard, que les problèmes que nous avons évoqués ce matin en parlant de l'édit de Nantes ne se dissipent pas.
Fragilité de la promptement. Et l'édit de Nantes le montre bien.
La semaine prochaine, nous parlerons des pays baltes, très très marqués évidemment par une angoisse celle-ci née des événements d'Ukraine. Pays baltes dans la longue durée, survivre et durer. Et je recevrai Julien Guélin pour en parler. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Sylvain Richard aujourd'hui, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige, à la discothèque Nathalie Rouvillain, toujours fidèle, et pour les archivinas, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, dans ce même studio, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.